Actualité africaine à 12h30, temps universel.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'ONU est-elle indispensable ? On en parle, on en débat ce matin sur RFI à l'occasion du 80e anniversaire de la signature de la Charte des Nations Unies. Il y a tout juste 80 ans, jour pour jour, le 26 juin 1945, les représentants de 50 pays signaient à San Francisco, aux États-Unis, ce document qui fixe les grands principes des relations internationales. Je vous rappelle le contexte, hein, 26 juin 1945, le monde sortait à peine de la Seconde Guerre mondiale et cette charte avait pour principe de garantir la paix et la sécurité dans le monde, développer des relations amicales entre les nations, égalité entre les États ou encore encourager le respect des droits humains. Cette charte des Nations Unies, ce n'est pas juste un bout de papier, pour reprendre l'expression d'Antonio Guterres cette semaine à l'occasion de cet anniversaire. Cette charte, c'est l'acte de naissance, c'est l'acte fondateur de l'ONU, avec des structures qui vous sont plus ou moins familières, l'Assemblée Générale, le Conseil de Sécurité et ses 5 membres permanents, ou encore la Cour Internationale de Justice. 80 ans après, quelle image vous renvoie l'organisation onusienne ? Que vous inspire son impuissance depuis près de 3 ans en Ukraine ? Son impuissance également concernant le Proche-Orient ? L'ONU est-elle crédible ? 33 9 693 693 70 et vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Il y a par exemple Ousmane qui nous dit « Les États-Unis ont bombardé l'Iran sans l'autorisation des Nations Unies. Israël fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec l'aide de l'Amérique. La Russie agresse l'Ukraine. Finalement, personne n'a peur de l'ONU. » Abdoulaye, bonjour.
Oui, bonjour Juan. Bonjour à tous vos auditeurs qui vous écoutent depuis le Niger, à Niamey.
Très bien. Bon, on salue nos auditeurs nigériens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Vous, en tout cas, vous êtes à Londres, au Royaume-Uni. Et comme de très nombreux auditeurs, l'ONU, pour vous, n'est plus dissuasive.
Non, pas du tout, pas du tout. L'ONU a montré ses limites, comme vous l'avez rappelé en introduction. On voit ce qui se passe en Iran, on voit ce que les États-Unis font. Les États-Unis et Israël font un peu partout dans le monde. On voit ce qui se passe en Ukraine. Il y a tellement d'exemples qui prouvent combien de fois l'ONU est limitée dans ses prérogatives, dont la première est de garantir la sécurité et la paix dans le monde. Malheureusement, elle a montré ses limites, même si je pense que c'est très indispensable d'avoir une institution comme ça, ne serait-ce que de manière formelle.
Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut que l'ONU survive à la crise qu'elle traverse, et sa survie passe peut-être par des réformes alors.
Ça passe par des réformes, mais ça passe surtout par le fait que les populations dans les pays soient très engagé à choisir les leaders qui dirigent les pays. Parce que je pense qu'à la fin des fins, ce sont les personnes qui animent les institutions et qui animent les pays qui font de l'ONU, qui donnent à l'ONU sa crédibilité. Si demain, on n'avait pas Donald Trump, je suis persuadé que si on n'avait pas le personnage de Donald Trump à la tête des États-Unis, la dynamique entre les États-Unis et l'ONU va changer. C'est la même chose au niveau de l'Israël. Je peux dire la même chose au niveau de la Russie. Je ne sais pas si vous comprenez.
Je comprends tout à fait ce que vous dites et votre raisonnement me semble effectivement pertinent. Abdoulaye, vous citiez le Niger à l'instant. Ça signifie que vous avez évidemment une affinité avec le continent africain. Quand vous entendez les pays africains depuis des décennies maintenant exiger une meilleure représentation du continent au Conseil de sécurité de l'ONU, évidemment, cette revendication est légitime, mais qu'est-ce qui bloque selon vous, Abdoulaye ? Qu'est-ce qui fait que l'Afrique ne soit pas suffisamment représentée ?
Mais je pense que c'est une fois encore, c'est les dirigeants, c'est les politiciens qui dirigent les pays, c'est le manque d'engagement, le manque de sérieux. Parce que tant qu'ils sont sérieux, je pense que leur revendication va être prise au sérieux et ils vont être représentés. Donc je pense que d'abord le fait que l'Union africaine qui a tant été chanté pendant très très longtemps et qui n'arrive pas à être réalisé. Si demain, une fois, demain, oui. l'Afrique était unie, on avait une Afrique unie, c'est clair que les obstacles vont être levés et c'est clair que ce oui. sera très 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 rapide. D'avoir notre voix, d'avoir un veto au niveau des États-Unis.
Oui, en même temps, voilà, l'Afrique unie, certes, sur le papier, c'est une belle image. C'est comme vous dites, les Européens unis. Et vous voyez, l'Union européenne existe et sur bien nombre de dossiers, les 27 sont divisés. En tout cas, merci infiniment, Abdoulaye. Continuez à nous suivre à Londres, au Royaume-Uni. On parlait de la présence africaine, justement, dans les instances de l'ONU. Bonjour, Alphonse.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes au Sénégal et vous aussi vous souhaitiez nous interpeller sur ce point précis.
Oui exactement, vous savez quand depuis 80 ans l'Afrique est marginalisée dans le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Afrique n'a pas de droit de veto et quand vous prenez l'ONU, 54 pays africains sont membres de l'ONU et presque... Toutes les décisions de l'ONU s'imposent à l'Afrique. L'Afrique subissait les décisions du Conseil de sécurité. Ou bien
alors, Alphonse, j'ai un chiffre, mais un chiffre qui date un tout petit peu, mais je vais le donner parce qu'il est important. Avant les guerres en Ukraine et à Gaza, 90% de l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU était consacré aux questions africaines.
Oui, vous avez vu, et pourtant, les Africains ne sont pas membres là où on prenne ces
Ils sont membres, mais ils ne sont pas membres permanents du Conseil de sécurité.
Je veux dire par là qu'ils subissent presque les décisions du Conseil de sécurité. Cette Afrique-là, pour moi, doit avoir droit à la parole, droit à la parole. Et je pense que c'est le moment de réformer l'ONU et de permettre à certains pays africains, à certaines puissances africaines comme le Nigeria, comme l'Égypte, comme l'Afrique du Sud, comme le Maroc, oui. ou bien même prendre l'unité africaine et donner cette une voix, ne serait-ce que le droit de veto pour l'Afrique.
Le droit de veto, alors justement Alphonse, le réseau téléphone n'est pas très bon là où vous vous trouvez. L'un de vos compatriotes, il est également au Sénégal, souhaite prendre la parole sur ce fameux droit de veto. Arona, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auteurs de RFI.
Alors, sur le droit de veto, que souhaitez-vous nous dire?
Voilà, sur le droit de veto, moi je pense qu'aujourd'hui, l'ONU doit vraiment impliquer les régions africaines et latino-américaines en quelque sorte, parce qu'on ne peut pas comprendre l'Afrique, 54 pays, que jusqu'à présent le droit de veto, c'est pour que un bon nombre de pays restent, c'est-à-dire l'Europe, entre l'Europe, l'Amérique et une partie de l'Asie. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique...
Mais sur le droit de veto, Arona, vous souhaitiez nous parler de droit de veto. Il faut que les nouveaux pays du Conseil de sécurité de l'ONU, les permanents, aient le droit de veto, parce que j'ai cru comprendre, quand je vois votre fiche, que vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut supprimer le droit de veto. Ça ne doit plus exister.
Tout à fait, parce que ouais, ce que le droit de veto apporte comme de mal est beaucoup plus que ce qu'il fait, ce que le droit de bien, en quelque sorte. Je pense qu'il faudra supprimer purement et simplement le droit de veto. Pour qu'au moins, si un pays agresse un autre pays, qu'on puisse vraiment, l'ONU puisse intervenir sans entrave. Mais je vois qu'avec d'une partie, les deux blocs, la Chine et la Russie, de l'autre côté, et les États-Unis, la France, de notre côté également, avec le droit de veto, ça cause des problèmes au sein de l'ONU pour prendre des décisions efficaces, en quelque sorte, pour régler certains conflits mondiaux. Mais je pense qu'aujourd'hui,
Et vous êtes nombreux à aller dans ce sens. Il y a Georges qui nous dit « Ça fait bien longtemps que je n'accorde plus de crédit à l'ONU. Cette organisation aux objectifs pourtant nobles n'est qu'un machin. » Il reprendra une expression bien célèbre du général de Gaulle. « L'ONU n'est qu'un machin aux mains des cinq grands. » Et ces cinq grands, ce sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Ils s'en servent en fonction de leurs intérêts, nous dit donc cet auditeur. « Madji, l'ONU est au service des cinq grandes nations. Qui décide à part ces cinq grands? L'ONU doit se réinventer, affirme cet auditeur. Toujours sur ce point précis, constant, l'ONU a lamentablement failli dans ses principes et ses objectifs. L'ONU est silencieuse quand l'Occident agresse. Comment cinq États peuvent-ils décider de l'existence de l'humanité? Voilà, trois messages que je lis sur ce point précis. Je pourrais vous en lire des dizaines d'autres, tant le droit de veto et le fait qu'il y ait des membres permanents et des membres non permanents suscite voilà, des réactions assez radicales sur nos réseaux sociaux et au standard d'appel sur l'actualité. On repasse justement au standard. José, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Kinshasa. Vous avez été plusieurs de la RDC à nous appeler, et pour cause. En RDC, ça fait maintenant plusieurs décennies que vous pratiquez l'ONU, et notamment à travers sa mission des casques bleus.
Oui, bien sûr, depuis l'indépendance. Nous avons connu les troupes des Nations Unies, même Lumumba à l'époque où il a été tué, mais l'ONU était déjà sur place. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais eu la paix. Jusqu'à aujourd'hui, le Congo est toujours instable, malgré la présence de l'ONU. Et c'est comme ça que même sur le plan international, je ne crois pas que quelqu'un dirait le contraire. L'ONU a failli à toutes ses missions.
Mais pourquoi, José, avez-vous une explication? Parce que c'est vrai que là, pour parler de la MONUSCO, ça va faire maintenant 25 ans qu'elle est présente sur le terrain. Son budget, il est colossal. 1 milliard de dollars par an. Je crois que c'est la mission des Nations Unies la plus chère de l'histoire de l'ONU. Donc il y a des hommes, il y a de l'argent. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, José?
En fait, en réalité, quand on parle d'1 milliard, c'est peut-être là l'intérêt de l'ONU de garder cette mission. Parce que cet argent est dépensé comment? Qui sont les fournisseurs de tous les biens? Ce sont toujours des gens qui manipulent l'ONU. Et donc, on n'est pas aujourd'hui satisfait, tout simplement parce que l'ONU accompagne l'insécurité. Mmh. Les moyens qui ont été dépensés, si le pays pouvait se doter de ces moyens pour se sécuriser. Depuis longtemps, le Congo est déjà en sécurité.
Vous multipliez 1 milliard par 25, voilà, ça vous fait 25 milliards de dollars dépensés depuis le début de cette mission. Donc vous dites que les membres de la MONUSCO ont tout intérêt à ce que la crise persiste pour maintenir finalement cette mission sur le terrain et maintenir leur salaire, leurs primes, etc., etc. C'est vrai que c'est un argument qui revient très souvent. José, ne raccrochez pas, je vous donne la parole dans un instant. Caleb est également en RDC et lui aussi souhaite réagir et dresser son bilan des Nations Unies. Bonjour Caleb.
Bonjour Juan, bonjour à tous les Congolais.
Nous vous écoutons.
Moi, je dirais que par rapport au bilan des Nations Unies, le bilan est un tout petit peu mitigé parce qu'on remarque un système de deux poids et deux mesures quand il s'agit des questions liées à l'Afrique ou quand il s'agit des questions liées aux États-Unis ou Israël, par exemple. Notamment pour le cas de la RDC, l'ONU a beaucoup hésité pour condamner le Rwanda. Pourtant, la RDC a perdu plus de 10 millions de morts et l'ONU était trop hésitante pour condamner. Mais là, on voit qu'il y a un petit revirement. L'ONU semble un peu se racheter avec les rapports récents de ses experts et puis notamment ces condamnations explicites qui demandaient précisément aux troupes rwandaises de quitter le sol congolais.
Caleb, vous parlez de votre pays de façon plus générale. Je vous lis le commentaire de Yannick qui nous écoute à Philadelphie, c'est aux États-Unis. Il nous a écrit sur WhatsApp. L'ONU est souvent perçue comme un instrument au service des grandes puissances, notamment occidentales, qui l'utilisent pour servir leurs intérêts nationaux et géopolitiques. Vous êtes d'accord avec l'analyse de cet auditeur aux États-Unis?
Exactement, exactement. C'est pourquoi je dis qu'il y a un système de deux poids, deux mesures quand il s'agit des questions liées à l'Afrique et des questions liées, par exemple, à Israël ou aux États-Unis. Donc, il a totalement raison.
Merci Caleb, bonne journée. Je vous lis deux commentaires avant de repasser au standard. Celui de Daniel à Brazzaville. L'institution onusienne est toujours indispensable car elle permet aux nations de se parler. Et c'est par le dialogue que l'on parvient souvent à régler les litiges. Mansour au Bénin. Alors, Bénin, mais j'ai un numéro de téléphone du Sénégal, enfin, peu importe. Mansour nous dit, l'institution était crédible dans la sécurité et le maintien de la paix, mais ses fonctionnaires l'ont transformée en une machine administrative lourde, inefficace, souvent corrompue. C'est un peu ce que disait, il y a quelques instants, José de Kinshasa en République démocratique du Congo. Gildas, bonjour, bienvenue.
Bonjour Monsieur Rouen et bonjour au Gabon.
Vous êtes à Libreville, dans la capitale. Gildas, l'ONU est-elle crédible?
La crédibilité de l'ONU est vraiment très entachée et donc non. Je vous prends un exemple simple pour ne parler que de l'Afrique. Pourquoi depuis des décennies, pourquoi depuis des milliers des années, l'Afrique n'est toujours pas dignement représentée. J'ai l'impression qu'on infantilise l'Afrique, j'ai l'impression que c'est du paternalisme, parce qu'on ne donne pas sa place à l'Afrique dans cette institution. Et c'est une institution, pour moi, des plus grands, des riches, des puissances nucléaires. Alors que l'Afrique représente, à mon sens, une voix qui peut tout de même faire en sorte que les non-alignés s'y retrouvent. On est obligé parfois de se retrouver derrière certaines nations en ce qui concerne les résolutions, en ce qui concerne les décisions, parce que l'Afrique n'a pas sa place.
Alors, l'Afrique a sa place au Conseil de sécurité, mais pas en tant que membre permanent. Il y a systématiquement deux pays du continent africain au Conseil de sécurité, mais ils ne sont pas permanents. Il y a une rotation. Ils n'ont donc pas le droit de veto. L'Afrique, je le rappelle, ce sont quand même 54 pays. Ce n'est pas rien. Et c'est plus d'un milliard d'habitants. Donc, effectivement. Et à votre avis, qu'est-ce qui bloque, Gildas? Qu'est-ce qui fait que cette réforme reste dans les cartons?
Eh bien, la mauvaise foi des cinq, tout simplement, la mauvaise foi des cinq. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre que ait ce pouvoir avec ce droit de veto qui leur est conféré, je ne sais pas sur quelle base, mais avouons tout de même que c'est quand même curieux.
Oui.
Bon, c'est-à-dire un seul pays, M. Rouhan, si vous permettez, allez-y. Un seul pays peut décider à l'encontre de tout le monde entier, s'il n'est pas d'accord, il impose son droit de veto et puis cette résolution ne passe pas. Est-ce que vous trouvez ça normal?
Oui. Moi, je n'ai pas à trouver ça normal ou pas. En tout cas, c'est un constat, c'est un fait, d'où les frustrations que crée ici et là ce droit de veto et les appels moult fois répétés des chefs d'État africains à la tribune des Nations Unies tous les mois de septembre à l'occasion de l'Assemblée Générale. Merci à vous. Vous souhaitiez rajouter quelque chose, Gildas? Ou vous êtes allé au bout du raisonnement?
Non. Je souhaite juste que l'on réforme réellement, pas juste des réformes factices ou des réformes de superflues, que d'accord. L'on réforme réellement l'institution et que l'institution reflète le monde entier.
Gildas, bonne journée à Libreville. Je cite le message d'un de vos compatriotes, Christian, également dans la capitale gabonaise. Des guerres, des conflits, l'ONU se contente de constater et rien de plus. Serge, à Brazzaville, force est de constater que l'organisation n'a pas empêché les affrontements entre nations ou les guerres par procuration, d'où la nécessité d'engager d'importantes réformes pour la rendre plus efficace. Allô Fabrice, je ne sais pas où, mais il est au Cameroun. Incapable d'assurer la paix dans le monde, l'ONU est devenue une simple boîte à condamnation verbale. Il cite Israël, il cite les États-Unis, il cite la Russie. L'ONU observe impuissante, nous dit cet auditeur, et il nous dit qu'après 80 ans d'échecs, il est temps que cette institution disparaissent, comme la SDN, la Société des Nations avant elle. C'est vrai qu'avant l'ONU, il y avait la Société des Nations qui avait été créée juste après la Première Guerre mondiale et la SDN a été incapable d'éviter la Seconde Guerre mondiale. Elle a donc été dissoute et remplacée ensuite par l'ONU. Voilà, bon, j'ai un peu résumé, schématisé l'histoire, mais voilà, ça plante un peu le décor. Mokhtar, bonjour.
Bonjour Juan.
À Nouakchott en Mauritanie, sur quoi souhaitez-vous nous interpeller exactement?
Moi, je voulais vous interpeller sur la partie financière des Nations Unies. Vous savez, comme vous le savez, le président des États-Unis a toujours mis une garde à la partie financière, donc à la participation auprès des Nations Unies sur sa participation financière. Mm-hmm. Et vous savez très bien également que cette participation financière joue un rôle important pour certains pays en voie de développement, si on parle de l'FAO, si on parle de l'UNICEF et d'autres organisations. Et si le plan même des travailleurs auprès des Nations Unies. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important que les pays donateurs fassent un effort afin de combler ce vide. Et également, les pays arabes.
Le vide causé par la réduction du budget américain au bon fonctionnement des différentes agences de l'ONU. Merci Mokhtar, je suis désolé, je vous interromps, mais je vois les secondes qui défilent et je suis obligé de rendre l'antenne. On se quitte, on revient demain à 8h10, temps universel. Et n'oubliez pas, dans 10 minutes, Priorité Santé avec Caroline Paré, il sera question ce matin de l'autisme.
PAC au pays de Banque Atlantique, l'offre Diaspora pour soutenir ses proches au pays, vous a proposé appel sur l'actualité.
Banque Atlantique.